Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Il est 15h à Kinshasa, voici les titres de votre journal. Au moins 8 quartiers de la ville de Goma sont privés d'eau potable depuis 3 jours. Du coup, des milliers de personnes parcourent de longues distances pour s'approvisionner en eau dans le lac Kivu. Un acteur politique congolais vivant aux États-Unis fustige la nomination du nouveau secrétaire exécutif de la CENI. Non, dit le député national Ntumba Tshabola, cadre de l'UDPS qui estime que Mabiku Totokani a l'expertise requise pour ce poste. L'invité de ce journal est honoré Kapuku Mushila, membre de la Voix des Sans-Voix. Il conduit une délégation de sa structure en Bandaka dans le cadre d'une sensibilisation des acteurs de la société civile sur les droits économiques et socioculturels. Au moins 8 quartiers périphériques sur les 18 que compte la ville de Goma au nord Kivu sont privés d'eau potable depuis 3 jours. Cette situation consécutive à une panne technique intervenue dans les réseaux de distribution locale et avec éclatement de la conduite mère de refoulement au niveau du cercle sportif en plein centre-ville. Du coup, des milliers de personnes parcourent de longues distances pour s'approvisionner en eau dans le lac Kivu. Gabriel Ouamenya pour plus de détails.
Les quartiers les plus touchés par cette pénurie d'eau potable sont par exemple les quartiers les plus chauds comme Majengo, Bouéné ou Katoï. 5 autres quartiers comme Virunga, Imbi, Bujovu, Kasika et Kaembe ne sont pas épargnés par cette rareté d'eau. Ce mardi matin, on pouvait apercevoir sur les principales rues de la ville plusieurs centaines d'hommes, femmes et jeunes, tous des bidons jaunes en bandoulière, se déversaient sur les lacs à la recherche de l'eau. Suivez les témoignages de cet enfant d'environ 8 ans que nous avons rencontré au niveau de la 34e région militaire.
Chez nous, nous souffrons à cause de l'eau. Sinon, les gens vont mourir dans les maisons. Moi, descendre au lac pour trouver l'eau. Je viens de Majengo vers Marché Kitrand.
Les spécialistes de santé redoutent déjà l'apparition des maladies d'origine hydrique, mais le directeur provincial de la Régie des eaux rassure David Angoya.
Je crois que toutes les dispositions nécessaires ont été prises. Je crois que ça, s'il n'y a pas d'empêchement en augmentation d'énergie électrique, nous allons rétablir la distribution, la desserte vers cette zone. Donc, c'est la technique, voilà. Donc, je ne sais pas vous dire, c'est à 10h05.
Goma, Gabriel Ouamenya, Radio Okapi.
Rareté d'eau potable également signalée au sud Kivu, où la population de Bukavu se plaint du manque persistant de cette denrée depuis plusieurs semaines maintenant. Des quartiers entiers restent sans eau, ce qui oblige la population à se diriger vers les bornes fontaines de routine ou encore vers le lac Kivu pour s'approvisionner. La direction de la Régie des eaux appelle la population au calme et à la patience, disant que les techniciens sont à l'œuvre pour remédier à cette situation. Des détails avec Rachel Kiesembangou.
Nous sommes au quartier Ngouba, un des quartiers les plus touchés par ce manque d'eau. Les habitants font des kilomètres jusqu'au lac pour se procurer d'eau. Cette eau qui n'est pas potable.
Les gens passent des semaines sans avoir de l'eau ici à Ngouba. Mais si la Régie des eaux pouvait faire aussi son travail pour qu'on puisse avoir de l'eau.
Souvent, moi, quand je quitte le boulot, j'arrive à la maison, il n'y a pas d'eau. Je suis obligé de payer les transports pour aller chercher de l'eau.
Envoyez-nous de l'eau. Vraiment, ça doit être favorable à toute la population de Ngouba. Merci.
La Régie des eaux s'est dit être à l'œuvre pour résoudre au plus vite ce problème. Certes, jusque-là, la solution est loin d'être trouvée. Le directeur provincial de la Régie des eaux Sud Kivu, Ntumba Kayembe.
Nous faisons tout. Nous remettons les histoires et puis ça ne répond pas. Nous avons acheté des histoires à Goma. On a ramené, ça n'a pas répondu. Quand il n'y a pas d'eau, ça me fait très mal.
Il y a des équipes techniques qui sont à pied d'œuvre. On doit résoudre cette difficulté-là, ici-là.
Bukavu, Rachel Kessé, Radio Okapi.
Et puis cette recrudescence des cas de Covid-19 au Kasaï oriental, la province enregistre depuis la 52e semaine épidémiologique, c'est-à-dire la dernière de l'année 2021, un total de 620 cas, dont 29 décès. Le chef de division provinciale de la santé lie cette recrudescence aux nouveaux variants Omicron et au relâchement des gestes barrières par la population. Docteur Bonheur Tshitekou pense à une nouvelle approche à appliquer au niveau des 19 zones de santé pour lutter contre la contamination du coronavirus. Docteur Bonheur Tshitekou s'exprime au micro d'Esterne Dalafina.
Nous avons connu notre vertigineuse des cas de Covid-19
Et au jour d'aujourd'hui, nous avons enregistré près de 620 cas de COVID-19, dont 29 décès. Et dans la majorité des cas, ce sont des cas symptomatiques hein, qui sont plus dépistés au niveau des tests voyageurs et également au niveau de notre CETECO pour ceux-là qui viennent volontairement. En dehors de certains cas aussi qui présentent des manifestations cliniques qui viennent au niveau des structures sanitaires pour la prise en charge. Donc, on s'est dit qu'il y a déjà les nouveaux variants d'Omicron qui existent déjà chez nous avec tout ce qu'il y a comme des de la population et il y a une forte contagiosité, ce qui fait que nous enregistrons beaucoup de cas de COVID-19. Certes, il y a des relâchements dans la population et les mesures barrières ne sont pas respectées. Et nous avons pris des mesures afin que l'approche puisse être appropriée au niveau des zones de santé.
Je le disais au début de ce journal, la nomination de Mabiku Totokani comme secrétaire exécutif de la Commission nationale électorale indépendante ôte toute crédibilité aux prochaines élections de 2023. Cette déclaration est de Gershom Kaebe, acteur politique congolais indépendant résident aux États-Unis d'Amérique, ce mardi à Radio Kapi. Il estime que le fait que Mabiku soit un ancien conseiller du président Félix Tshisekedi pose un réel problème. On l'écoute.
Je me demande quel crédit on peut accorder aux élections de 2023 en ayant comme secrétaire exécutif de la CENI l'ex-conseiller du président de la République, le président de la CENI proche du président de la République, la majorité des membres de la Cour constitutionnelle, ce sont des hommes proches du pouvoir. Alors, ça veut dire que le président de la République a déjà fini avec sa campagne électorale. Il n'a plus besoin de faire la campagne électorale. Alors, il ne faut pas perdre l'argent dans l'organisation des élections alors que les résultats sont déjà connus. L'UDPS n'a aucun bilan à présenter au peuple congolais. Alors, il est en train de tout faire pour organiser la fraude électorale et de se maintenir au pouvoir au-delà de 2023. C'est déplorable. Alors, pour moi, comme l'UDPS veut gouverner par défi, elle n'a qu'à continuer. Et au-delà de 2023, au lieu de perdre l'argent dans les élections, et nous allons constater que l'UDPS a pris en otage le peuple congolais.
En réaction, le député national Ntumba Tiabola Bintou, cadre de l'UDPS, estime que Mabiku Totokani a l'expertise requise pour travailler au poste de secrétaire exécutif national de la CENI. Il ajoute que ceux qui crient à la planification de la fraude pour les élections de 2023 sont ceux qui ont peur de l'UDPS qui va remporter ces élections. On écoute le député national Ntumba Tiabola Bintou.
L'UDPS, c'est un parti politique qui a milité pendant plus de 37 ans pour l'avènement de la démocratie et l'état des droits. L'UDPS a gagné les élections de 2018 sans aucun membre à la CENI, ni à la Cour constitutionnelle. L'UDPS se prépare à gagner encore les élections de 2023. Le nouveau secrétaire général de la CENI est un expert que même la dynamique de l'opposition politique avait envoyé pour auditer les fichiers électoraux le 9 mai 2018. Monsieur Toto Totokani Mabiku a de l'expertise à mettre au service de son pays pour l'organisation des meilleures élections 2023. Nous comprenons que les gens qui font ce genre de déclarations ont simplement peur des élections, qu'ils se préparent à participer aux élections de 2023, que l'UDPS va certainement remporter. Ce ne sont ni les membres de la CENI, ni les membres de la Cour constitutionnelle qui votent. C'est la population congolaise qui avait voté l'actuel président, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et nous espérons bien qu'en 2023, la population va renouveler encore une fois de plus sa confiance au président Félix. Donc, il n'y a pas du tout de tricherie.
C'est un dossier signé Alain Hirung. Les armées congolaises et ougandaises engagées dans l'opération Shuja contre les ADF dans l'est de la République démocratique du Congo alertent le public sur un risque d'attentat et acte de sabotage qui pourrait être commis par ces rebelles contre la population. Dans un communiqué conjoint daté du 10 janvier, ces deux forces affirment qu'elles disposent des informations sur la planification des massacres par les ADF déguisés en soldats de l'armée ougandaise avec comme objectif de déstabiliser la région. Le condensé de ce communiqué avec Martial Kizabiamungu.
Selon ces communiqués de presse, deux éléments appartenant à un groupe armé projetteraient des actions pour discréditer les performances réalisées par les armées ougandaises et congolaises engagées dans la traque contre les rebelles de ZADF à l'est de la RDC. Selon ces deux forces, ces criminels voudraient semer les doutes dans l'esprit des populations et monter celles-ci contre ces deux armées pour mieux nuire aux bonnes relations qui existent entre ces forces et la population locale. Toujours selon ces communiqués, ces criminels projetteraient d'utiliser des uniformes similaires à ceux de l'armée ougandaise pour organiser des attentats à la bombe, l'objectif étant de monter la population contre l'armée ougandaise que celle-ci et les FRDC sont pourtant censés protéger. Les deux forces rassurent cependant les publics qu'elles ne se laisseront ni distraire ni détourner de leur mission, ce qui est de neutraliser définitivement l'ennemi ZADF. Le tout dans le respect des droits de l'homme, du droit international humanitaire et des règles d'engagement conclues le communiqué. Bounia, Martial Kizabiabunko, Radio Okapi.
Première audience hier lundi au tribunal de paix Lubumbashi Kamalondo dans l'affaire qui oppose la ferme Espoir de l'ancien président Joseph Kabila à Timothée Mbouya, responsable de l'ONG Justicia Asbel. Ce dernier est poursuivi pour imputation dommageable pour avoir dénoncé dans un communiqué de presse du 30 septembre 2021 que la ferme Espoir a spolié de manière manifeste le parc national de Kundelungu en érigeant une clôture au-delà de ses limites et en privant le parc de la faune et de la flore sur une grande étendue. Des précisions avec Jean Gandou.
Cette première audience a duré une trentaine de minutes. Et pour cause, les avocats de Timothée Mbouya ont démontré que le tribunal n'a pas été régulièrement saisi parce que l'exploit d'assignation de leur client a été déposé non pas à son domicile comme l'exige la loi, mais au bureau de l'ONG Justice à Asbel. Après une longue joute verbale contradictoire entre les représentants de deux parties en présence, à savoir la ferme Espoir et Timothée Mbouya, le président de Seyan a rejoint les préoccupations des avocats de Timothée Mbouya et renvoyé les deux parties. Pendant cette joute verbale, le principal incriminé, tout des blancs vêtus et les regards cachés derrière les lunettes, suivaient attentivement les différentes prises de parole. À la sortie de l'audience, il a déclaré que
les intimidations et les harcèlements judiciaires ne vont pas nous décourager. Ce que nous avons dit est vrai, c'est vérifiable et notre lutte, c'est que l'environnement soit protégé. Et nous croyons que quelle que soit l'issue de la procédure, le juge finira un jour par s'imprégner du contenu de notre rapport et remettre aussi l'État congolais dans ce droit.
Les avocats de la ferme Espoir se sont dit non découragés. Ils promettent des régulariser la saisine pour que ce procès se tienne afin que leur cliente, la ferme Espoir, soit rétablie dans ses droits. Et devant le parvis du palais des justices, quelques activistes de droits de l'homme arboraient des pancartes portant des messages de soutien à leur collègue Timothée Mbouya. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Le syndicat Force syndicale nationale, FOSINAT, salue la décision du ministre de l'EPST de supprimer la perception de l'impôt sur le revenu IPR sur les salaires des enseignants. Ce syndicat l'a fait savoir ce mardi à Kinshasa dans une déclaration à Radio Okapi. Son rapporteur, Mélis Ndelo, affirme que cette décision va beaucoup soulager les enseignants. Il a été joint par Alain Hirung.
Partant du principe droit et devoir, il est de droit pour l'État congolais d'appliquer l'IPR car l'État ne vit que de taxes, impôts, redevances, prêts. Mais nous devons aussi nous poser la question, est-ce que l'État, avant d'appliquer ce droit, a-t-il accompli ses devoirs à l'endroit de nos enseignants? Je vous répondrai non. Alors, dans la mesure où l'État congolais ne sait pas appliquer ce devoir, mais pourquoi réclamer le droit? La retenue de l'IPR dans le salaire de chaque enseignant avait des effets néfastes dans le quotidien des enseignants. Voilà pourquoi au nom de la force syndicale nationale, nous tenons vivement à remercier et à saluer la bravoure du ministre de l'EPST, en l'occurrence le professeur Tony Mwaba Kazadi, pour cette initiative de stopper effectivement la retenue au salaire des enseignants.
Actualité internationale.
En Libye, deux ONG s'inquiètent après l'arrestation hier lundi de quelques 600 migrants à Tripoli. Ils campaient depuis octobre 2021 devant les bureaux des hauts commissariats aux réfugiés, malgré la fermeture de ces centres le mois dernier, et faisaient partie d'un groupe de 2000 personnes raflées lors d'un raid et placées dans un centre de rétention. La police leur avait demandé de quitter les lieux, ce qui avait poussé un premier groupe de 200 personnes à quitter ce lieu. Les 600 qui restaient ont, pour leur part, été embarqués dans deux bus en direction du centre de rétention officiel de Aïn Zara. En Guinée, la classe politique invitée à une rencontre sur la transition en cours. Sous la pression des partis politiques guinéens, le gouvernement, à travers le ministère de l'administration du territoire, également tutelle des partis politiques, a invité les acteurs à une rencontre pour parler de la transition en cours dans le pays. Une rencontre qui a duré plus de 3 heures sous la présidence de Maurice Condé, ministre de l'administration territoriale.
L'invité.
L'invité de ce journal est Honoré Kapuku Mushila, membre de la Voix des Sans-Voix. Il conduit une délégation de sa structure en Mbandaka dans le cadre d'une sensibilisation des acteurs de la société civile sur les droits économiques et socioculturels. Il s'entretient avec Paul Richard Malingela.
Monsieur Honoré Kapuku, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Cette fois-ci, vous parlez des droits économiques et socioculturels. Quels sont les principaux droits dont jouissent nos populations?
Les droits économiques, socioculturels sont, comme on les dit, avec tous les droits fondamentaux inhérents à l'homme. On peut citer quand même les droits à l'eau potable. Si on n'a pas de l'eau potable pour toute la population, c'est un problème de santé qui va se poser. Nous avons aussi le droit à l'électricité, le droit au logement, le droit à l'éducation, le droit à l'alimentation. Ce n'est pas n'importe quelle alimentation, une bonne alimentation. Le droit au travail, le droit à la culture. Parfois, nous-mêmes, nous minimisons notre culture. Notre langue, parfois, est souvent oubliée pendant des manifestations culturelles qu'on organise. Et pourtant, les droits économiques, sociaux et culturels nous rappellent l'utilisation même de la langue autochtone dans notre culture est très, très importante.
Pendant les rencontres,
ce n'est pas exclu. Si vous allez dans d'autres cieux, on vous parle seulement dans leur dialecte, dans leur langue. Vous allez vous fournir un effort afin de connaître aussi comment parler cette langue-là. Oui. Donc, il y a plusieurs droits. Nous avons le droit à la propriété, donc le droit au logement. C'est un problème sérieux qui se pose. Si vous regardez la province de l'Équateur, il y a des gens qui sont dans des taudis.
En quoi cette sensibilisation va apporter un changement dans ce domaine-là?
Bon, une fois la population qui est ciblée et les autorités qui sont impliquées prennent conscience et vont aussi vulgariser les mêmes droits auprès de la population, chacun de nous saura comment les revendiquer. Et s'il y a revendication, c'est une façon de demander à l'État qui a l'obligation de les réaliser, les protéger et les respecter, de faire en sorte qu'il y ait jouissance de tous ces droits. Et si l'État fournit un effort, ne fût-ce que de réaliser au minimum, donc à ce moment-là, on peut espérer avoir un changement. C'est le développement même du pays. Vous regardez très bien avec les infrastructures routières, les routes de dessertes agricoles dans la province de l'Équateur posent des problèmes sérieux. Comme conséquence, la misère en Mbandaka. Les gens souffrent. Ils nous disent il nous manque même le poisson, mais nous sommes entourés des eaux. Jusqu'à quand la population va commencer à crier? Tout ça, c'est manque de connaissances en la matière. Une fois toute la population mobilisée, sensibilisée, pourra revendiquer, je pense que l'État ne pourra pas garder sourde oreille pour satisfaire à leurs besoins.
Enfin, en cas de violation des droits économiques, socioculturels, que doit faire la victime?
D'une manière générale, ici, ce sont des cas qui constituent des dossiers d'une communauté quelconque, d'un peuple, de la population, mais des cas isolés dans le cadre de la liberté syndicale, droit au travail. Je pense que la personne qui se sent vraiment touchée, il y a une procédure à suivre.
Laquelle?
Il y a la procédure d'abord administrative. S'il s'agit d'un problème de travail, il y a quand même au niveau de l'administration publique toute une procédure à suivre. S'il ne trouve pas gain de cause, c'est à ce moment-là qu'il peut contacter aussi les structures de la société civile, les droits humains que nous sommes, pour l'accompagner dans sa démarche. Je pense que tout pourra aboutir. Il y a la justice. Il est dit dans les fondamentaux des droits de l'homme que tout être humain bénéficie les mêmes droits que tout autre. Il n'y a pas de discrimination. Le principe d'égalité existe et de justice. Il doit trouver la juridiction compétente. Et à cela, s'il n'est pas encore satisfait, il y a toujours la possibilité d'interjeter appel. Chaque fois, être assisté d'un avocat, les gens qui maîtrisent le domaine, puisque seul, parfois, on ne peut pas comprendre le méandre, mais on peut se faire embourbés par n'importe qui. Puisque nous avons des dossiers de gens qui pleurnichaient des années, ils ont fini par emporter au niveau de la justice.
Mais beaucoup d'autres abandonnent faute d'avoir une grande bourse.
Non, c'est un découragement seulement. Ils croient que la justice appartient aux plus forts financièrement. Non, même les pauvres font marcher les riches en justice.
Honoré Kapoko de la VSV, Radio Kapi vous dit merci.
Merci beaucoup, monsieur le juge.
C'était notre invité, Honoré Kapoko Mushila, membre de la Voix des Sans Voix, qui s'entretenait avec Paul Richard Malengela. Fin de ce journal. Merci de l'avoir écouté.